Bernard-Henri Sat est vraiment le grand spécialiste de l'enzymologie des sucres français. Mais la France n'a plus voulu de lui récemment, donc... Il est professeur, directeur de recherche émérite et continue à faire de la recherche au Danemark. Bernard, on s'est rencontré il y a longtemps à Grenoble, puisque il animait une équipe dans un des labos phares des sucres, qui est le CERMAV à Grenoble. Ensuite, il est allé à Marseille et c'est là qu'il a fini sa carrière au CNRS. Et maintenant, il travaille toujours. Voilà, merci Bernard.
Merci Marc. On va prendre le micro.
Ouais. Oui.
Merci, on m'entend ?
Oui.
Donc, effectivement, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette usagée qui est au CNRS et une casquette au Danemark qui est toute neuve. J'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Donc, la question aujourd'hui qu'on va aborder, c'est est-ce qu'on peut encore découvrir des nouvelles enzymes au XXIe siècle ? Et surtout lorsqu'il s'agit d'enzymes qu'on a commencé à découvrir il y a très très longtemps. Et on va voir qu'en effet, la réponse courte pour ceux qui sont pressés, la réponse est oui, on peut, et puis sinon, pour les autres, on va voir comment. Je suis désolé, les diapos sont en anglais, parce qu'elles sont en anglais. Donc on va regarder un petit peu les substrats, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les sucres, les enzymes, et donc il y a un petit mot qui s'appelle CASIM, c'est pour Carbohydrate Active Enzymes, c'est un mot court. Leur classification, les problèmes pour la prédiction de leur fonction pour les enzymes de sucre, c'est la spécificité pour un sucre particulier qui intéresse, et comment est-ce qu'on va faire pour en découvrir de nouvelles. Et est-ce qu'on est capable d'estimer la diversité naturelle des sucres à l'aide des CASIM ? Je crois que j'ai supprimé cette section pour tenir dans les temps. Et enfin, on fera un petit tour dans les génomes et dans les microbiomes pour voir un petit peu tout ça, pour illustrer un peu ce que l'on peut faire avec un système organisé. Donc, les sucres complexes sont trouvés à peu près partout dans la nature. On va les trouver chez les plantes, les champignons, toutes les algues, chez les métazoaires évidemment, les protistes, les bactéries, et même les virus, y compris les virus qui vous font porter un masque aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est universel, c'est une décoration universelle, qui a un problème, c'est que ça n'est pas codé directement par l'ADN. On a l'ADN, c'est la macromolécule roi, king, et puis qui va produire les protéines, qui sont un petit peu les reines, et les sucres, ce sont les produits, ce sont les cendrillons des macromolécules. Mais c'est ça qui les rend intéressantes également. Donc il y a une diversité stéréochimique qui est extrêmement grande pour les polymères de sucre, en dépit d'une composition qui est absolument ennuyante, il n'y a même pas de soufre dedans. Par contre, c'est des macromolécules ou c'est des molécules qui sont extrêmement abondantes en raison de la photosynthèse, qui a eu un grand succès, et on la retrouve partout, c'est un peu la monnaie d'échange des organismes vivants, on les trouve partout avec un intérêt appliqué qui est assez énorme, qui va de choses très traditionnelles comme le bois, les pâtes et papiers, mais au-delà de ça, on peut aller jusqu'à la biotechnologie la plus fine, la santé, la médecine, la malnutrition, etc. On verra peut-être quelques exemples en fin d'exposé. Donc, moi, mon boulot, celui que je me suis fixé il y a quelques années, c'est essayer justement d'explorer le lien puisqu'il n'existe pas naturellement ce lien entre l'ADN et les sucres, mais essayer de voir si on peut quand même les relier et relier la glycobiologie, quelque part, à la génomique. Donc, la molécule, voyons voir comment ça fonctionne, cette affaire, voilà. La molécule qui est la plus intéressante, à mes yeux, c'est ce qu'on appelle un glycoside, c'est un sucre qui est lié à quelque chose. Donc, comme vous le savez, les sucres ont des tas d'atomes asymétriques, et donc on a plein de combinaisons qui sont possibles. Ces glycosides sont formés par des glycosyl transférases qui prennent un sucre activé, en général par un phosphate, et qui vont, mais pas toujours, qui vont accrocher ça sur un autre accepteur, R, en rouge, et ces glycosides sont dégradés eux-mêmes en sucre simple par une série d'enzymes, dont les glycosides hydrolases, parfois des polysaccharides d'IAS ou des lytiques polysaccharide monooxygénase, qui sont des enzymes qui font ça par oxydation. Donc, les enzymes, les casines, les enzymes qui agissent sur les sucres, ce sont les enzymes qui ont été découvertes en premier. Il y a 188 ans, Payen et Persoz ont découvert l'amylase. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. La France était en avance, puisque Berthelot a découvert l'invertase en 1860, puis ensuite on a passé le témoin aux anglo-saxons qui ont découvert le lysozyme, ont appliqué la radiocristallographie à ce même lysozyme. Depuis, on a étudié, on a découvert des milliers de casimes à travers le XXe siècle et le début du XXIe, et on peut se poser la question, est-ce qu'il reste quelque chose à découvrir maintenant, hein, en 2020. Donc examinons un petit peu ce qui les rend spéciales et à mes yeux intéressantes. Ces enzymes, eh bien, elles sont sélectives. C'est-à-dire que pour utiliser les sucres à bon escient, il s'agit de pouvoir distinguer un sucre d'un autre. Donc cette sélectivité a été introduite par des centres actifs qui sont en général très développés, sous forme de poches, de crevasses ou de tunnels, hein, qui vont faire une surface très complémentaire et très grande par rapport au substrat. Et donc, ça va donner la spécificité qu'on désire. Mais il y a bien plus de sucres, d'oligosaccharides et de polysaccharides, en tout cas de structures, qu'il y a de repliement de protéines. Donc, l'acquisition de spécificité pour des sucres particuliers sur un nombre limité d'architectures ancestrales s'est passé à de nombreuses reprises et a laissé des traces dans la séquence en acides aminés des protéines qui font ce boulot. Et mon job, c'est d'examiner ces traces et de voir ce qu'elles peuvent nous dire. Donc l'idée n'est pas neuve, elle a germé à la fin des années 80, où j'examinais des familles d'enzymes qu'on appelle des cellulases, qui hydrolysent la cellulose. Et en 89, j'ai trouvé que je ne pouvais pas faire moins de 6 familles de ces enzymes-là, basées sur leur ressemblance au niveau de la séquence. Et donc ensuite, j'ai étendu ce principe de famille basée sur la séquence à des tas de... Je l'ai généralisé aux glycosides hydrolases en premier, puis je l'ai passé à d'autres enzymes qui traitent des sucres, et tout ça pour faire un système qui est en général que les gens trouvent utile. Donc le but, c'était vraiment de lier les casimes et donc la glycobiologie à la génomique, à la biologie structurale, puisque vous savez qu'il y a une relation directe entre les séquences et les structures, et l'évolution également. Donc, on va passer sous les détails, mais cette idée de faire des familles, on l'a mise en pratique dans une base de données d'accès public qu'on appelle QASI, en petit nom, que vous trouvez en mettant QASI dans Google, par exemple. Et donc, on décrit les familles d'enzymes qui assemblent, qui coupent, qui relient, qui lient les sucres complexes. C'est une opération qu'on a commencée en 1998 Et on fait un update à peu près toutes les 3-4 semaines. Actuellement, on a à peu près 400 familles qui sont traitées là-dedans. Et notre source de données, c'est les séquences du NCBI qui sont relâchées tous les soirs. Donc, tous les soirs, on a un robot qui va aux États-Unis, qui regarde quelles sont les nouvelles séquences, on les télécharge, on les analyse. Et ensuite, on a un certain nombre de choses qui sont faites automatiquement par une série de programmes. Et les résultats sont curés, je ne sais pas si c'est bien bon en français, sont nettoyés, sont reviewés par des humains. Donc il y a un site public auquel vous pouvez accéder, qui couvre actuellement plus de 20 000 génomes bactériens, plus de 400 génomes d'archées et 350 génomes eucaryotes. Et il y a une partie privée, avec des génomes non finis ou des génomes que l'on nous confie avant publication, qui nous permet d'avoir beaucoup plus de génomes eucaryotes, par exemple. Donc, les familles de ces casimes, ce qui les rend intéressantes, c'est qu'elles ont un potentiel informatif qui est extrêmement fort, et bien plus fort, j'espère vous en convaincre, plus fort que les protéases, par exemple, ou les kinases, ou les lipases, enfin les enzymes habituelles. Et en particulier, l'examen des casimes qui sont codés par un organisme va vous renseigner sur le type de lifestyle, le type de vie et les systèmes d'utilisation du carbone de cet organisme. On va voir ça tranquillement dans cet exposé. La base de données est un système qui sert une communauté de personnes. Et pour les casimes, je le répète, l'activité, pour nous, ce qui est important, c'est la spécificité. Pour chaque famille de casimes, on va vous donner un certain nombre de choses, telles que les activités. Une famille, basée sur les séquences, contient plusieurs activités, des enzymes qui agissent sur plusieurs sucres. On va vous donner aussi de la taxonomie, on va vous permettre même de naviguer taxonomiquement là-dedans. Vous allez pouvoir télécharger depuis quelques semaines ce que vous voudrez de cette base. Et on va essayer de lier tout ça, toute la connaissance, y compris les ligands qui sont vus dans les structures à trois dimensions. Donc, pour certaines familles, on a fait un effort de faire des sous-familles, c'est-à-dire diviser ces choses-là en des groupes un peu plus petits, avec comme but d'avoir moins de variabilité fonctionnelle dans ces sous-groupes. On est soumis, quand on fait une base de données qui est donnée au public, à des contraintes. En particulier, deux contraintes sont listées en premier. Là, c'est la stabilité et la mise à jourabilité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de mettre à jour votre système, eh bien, donc ce n'est pas la peine de continuer, il faut passer à autre chose. Et il faut que votre système soit stable, c'est-à-dire que les familles ne doivent pas changer à tout bout de champ, parce que sinon, la littérature, l'utilisation en devient compliquée ou impossible. On est engagé et on est supporté par la communauté glycobiologique mondiale. Donc on est vraiment heureux, et sans l'adhésion de cette communauté, je pense qu'on aurait arrêté depuis longtemps. On a un site complémentaire qui n'est pas du tout développé par nous, mais qui est développé par des gens qu'on connaît bien, des amis, qui est Casipédia, qui va vous donner de l'information encyclopédique sur les familles que l'on décrit. On va prendre quelques exemples pour voir un petit peu comment la croissance de l'information et la croissance de la connaissance se déroule au cours du temps. Donc ici, la première date, ici, 35 familles, c'est 1991, c'est la première version de ma classification. Puis ensuite, on regarde le nombre de familles, est-ce qu'il a continué à croître avec le temps? Et la réponse est oui. On a rentré la semaine dernière la famille GH172, donc, vous voyez, on croît à un rythme d'environ 5 familles par an depuis 1991, et on ne voit pas de signe de plateau. Donc, en toute, En toute logique, on peut s'attendre à ce que ça continue à croître, en tout cas pour un certain temps. Alors, de façon amusante, c'est en 1991, on pensait qu'on connaissait tout. Évidemment, on ne connaissait pas tout. Et maintenant, on peut penser qu'on connaît tout. Et on ne connaît pas tout, j'en suis sûr. Le défi le plus important, c'est la prédiction fonctionnelle à partir des séquences. Puisque, Bernard, tu mets les séquences dans les familles, et donc il doit y avoir une raison. Et effectivement, il y a un certain pouvoir prédictif dans ces familles. Le mécanisme moléculaire est conservé dans chacune de ces familles. Les résidus catalytiques le sont, puisque ce sont eux qui font la catalyse. Et bien évidemment, la séquence étant ressemblante, la structure à trois dimensions est conservée également. Donc là, vous avez un pouvoir prédictif. Par contre, les familles, je vous l'ai dit, on le reverra dans une minute, ont des substrats ou des produits qui peuvent être différents. Et donc, ont aussi une structure dite modulaire différente. On va illustrer ça dans un instant aussi, mais ça va nous donner des problèmes pour la prédiction fonctionnelle. Une petite illustration pour montrer que ici une structure à trois dimensions qui est en tonneau bêta alpha 8 avec une machinerie catalytique composée de deux glutamates, un au bout du brin bêta 4 et l'autre au bout du brin bêta 7. Quelque chose, et avec un résidu, un petit peu de similitude de séquence qui est toujours traçable, on peut trouver 30 spécificités enzymatiques qui sont codées par des numéros dits numéros EC, Enzyme Commission. On va trouver 30 spécificités différentes sur une même structure. Et si l'on regarde une spécificité, telle que cellulase ici, endo-bêta-1,4-glucanase, on va trouver cette activité dans 14 familles différentes. Donc, on a quelque chose qui est extrêmement complexe, mais si on se donne la peine, on peut en faire beaucoup de choses. Alors, comment est-ce que les gens qui séquencent des génomes s'y prennent pour annoter les casimes, et comment sont les fonctions des casimes prédites ? C'est toujours le franglais, excusez-moi. Eh bien, simplement, en comparant les séquences de leur génome, une par une, à toutes les protéines qui sont dans une base de données, hein, au moment où ils le font. À un certain moment, on prend les 1000 séquences, on les compare, on fait 1000 comparaisons, et on regarde les résultats de chacune de ces comparaisons. Et la plupart du temps, eh bien, c'est fait d'un génome à un autre, par des gens qui sont différents, qui ont des buts différents, qui ont des critères différents, des méthodes différentes, ou des seuils pour ces méthodes qui peuvent être différents. Et pour la plupart des protéines et des enzymes, il est possible que ça ne crée aucun problème. Mais en tout cas, pour les enzymes qui agissent sur les sucres, étant donné le background que je vous ai donné avant, vous imaginez que ça peut conduire à plein d'erreurs. Donc il faut faire très attention. Alors, un exemple ici de prédiction fonctionnelle, comment les choses se passent. C'est un arbre ici qui vous montre la famille GT83. Et le point bleu, c'est la seule enzyme de cette famille qui a été caractérisée expérimentalement, qui nous a permis de savoir que c'était une famille de glycosyltransférases, hein, qui utilise un sucre qui est activé par un lipide monophosphate. Donc, pendant très longtemps, il suffisait que votre nouvelle séquence de votre génome tombe quelque part dans cet arbre pour que cette séquence soit affublée du même nom et de la même fonction que ce qui avait été trouvé initialement. D'accord ? Ça, jusqu'en 2006, où Christian Reitz a découvert que les trois enzymes avec un petit point rouge, en fait, avaient une autre activité. C'était des dodécaphényl phosphate, bêta-galacturonic acide, galacturonyl transférase. Voilà. Donc la conséquence était la suivante, c'est qu'il était possible que les enzymes qui soient proches de ces trois rouges là aient la même fonction, et que par conséquent, la famille GT83 a plusieurs sous-familles avec des choses qui sont là-haut, les galacturonésyles transférases, en bas, ici, les arabinosyles N transférases, et ici, des choses qu'on ne peut rien dire. Hein, rien dire, ou alors dire c'est probablement une famille de glycosyles transférases qui inverse la stéréochimie au carbone nanomérique en utilisant un nucléotide monophosphosucre comme donneur. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire. Donc, quand... voilà. Alors, d'où viennent les problèmes? Parce que cette affaire-là, la protéine, la famille GT83, il a fallu plus de 10 ans pour que ça soit corrigé dans les bases de données, et encore dans certaines bases de données. Et si vous faites un BLAST, vous cherchez des homologues en partant des séquences rouges, vous risquez de trouver encore beaucoup de choses qui sont nommées comme les séquences bleues. Donc, il y a plein d'erreurs. Hein. Et les erreurs et les problèmes viennent du fait que les annotations sont faites au moment où on les fait, avec des données qui sont déjà polluées. Et donc, on va éventuellement propager ces erreurs ou les amplifier. Et les projets ou les progrès de la biochimie sont rarement, trop peu et trop lentement propagés dans les vieux génomes. Enfin, même les vieux génomes, si vous allez regarder un génome qui a été annoté en l'an 2000, il ne va pas être réannoté. Personne ne va s'en soucier, tout le monde est passé à autre chose. Mais par contre, c'est resté dans les bases de données. Et si votre nouveau génome est proche de celui-là, eh bien vous allez avoir des choses obsolètes qui vont apparaître. Ensuite, on a le problème des numéros EC. Alors, puisque vous avez tous suivi les cours d'enzymologie, vous savez ce que c'est qu'un numéro EC. C'est un numéro d'ordre qui permet de décrire des réactions chimiques qui sont catalysées par des enzymes. On va voir que ces numéros EC ont des avantages, mais ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on veut en faire à l'ère génomique. Et comme je vous l'ai suggéré déjà tout à l'heure, les erreurs ou les obsolescences qu'il y a dans les bases de données généralistes sont difficiles à corriger. La plupart du temps, ce ne sont que les auteurs originaux qui peuvent modifier leurs données. Même si vous trouvez qu'il y a une erreur, c'est extrêmement difficile de la corriger. Il n'y a pas de pipeline qui soit prévu pour ça. Alors, dans CASI, notre base de données, on ne rapporte une activité que lorsqu'on a une évidence publiée pour cette activité. On ne transmet jamais la fonction par vertu de la similitude de séquence. Alors, la modularité des CASIM est aussi un problème pour la notation et par similitude de séquence. Donc, une protéine modulaire, une CASIM modulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine où on a un domaine catalytique, ici en rose, et des domaines non catalytiques, qui servent en général à lier des sucres, qui sont montrés ici en vert, peuvent être quoi, soit du côté N-terminal, soit du côté C-terminal, ou parfois vous pouvez avoir d'autres fonctions ou d'autres domaines qui sont associés également. Imaginons une séquence d'une protéine, on va appeler X122, je crois, si ma mémoire me sert bien, voilà, qui est ici, cette première chose. Comment est-ce qu'on va la noter ? Il y a bien une similitude entre les deux domaines, CBM2 et CBM10, ici, qui va ressembler, mettons, fortement à la première enzyme. Alors, est-ce que ce X122 est une bêta-1,3 glucanase? Eh bien, on ne sait pas. Par contre, c'est quand même le best blast hit, c'est la meilleure similitude. Et si on ne fait pas attention, si on fait un programme automatique qui va chercher simplement quel est le meilleur résultat dans la comparaison par rapport à une base de données généraliste, eh bien, on va conclure qu'il s'agit d'une bêta-1,3 glucanase et on va mettre ça dans une base de données et ça va être propagé. Donc, les numéros EC, j'en ai parlé il y a quelques instants. Donc, c'est une chose assez ancienne. La première version date de 1961. Et fait suite à des réflexions qui étaient même antérieures à ça. Donc, Par définition, il a été décidé qu'un numéro EC était donné à une enzyme après une caractérisation biochimique. Il faut avoir vu la réaction pour être capable de la décrire. Donc après, donc, quand on fait de la notation génomique, on ne fait pas de biochimie. Donc déjà, on viole le premier principe. Hein. Et en plus, la chose qui est étrange, c'est que quand j'ai commencé mon boulot il y a longtemps maintenant, pour publier un papier sur les glycosidases, etc., il fallait mentionner le numéro EC qui correspondait à l'enzyme qu'on avait caractérisée. Et au moment où les choses deviennent intéressantes, c'est une habitude qui a été abandonnée. Vous allez dans JBC, vous allez regarder si vous trouvez des numéros EC pour décrire les glycosidases qui sont présentées. Pas du tout. Pour des tas de raisons, et ce n'est pas la faute des gens qui travaillent au numéro EC, mais ils ont des précautions, ils utilisent des précautions qui sont telles que ce ne sont pas les auteurs des papiers qui peuvent décider du numéro EC. C'est une commission. Et vous savez très bien, puisque vous êtes chercheur, pour nombreux d'entre vous, que vous devez de plus en plus rechercher la nouveauté. Il est plus facile à publier une nouvelle enzyme qu'une enzyme déjà décrite. Une nouvelle enzyme, par définition, n'a pas de numéro EC. Une nouvelle activité, en tout cas. Donc, ces numéros EC, ils représentent simplement pour les hydrolases, hein, pour les glycosides hydrolases, c'est tout simple, c'est 3, 2, 1, hydrolase de sucre lié O ou S, et puis ensuite un numéro d'ordre qui n'indique rien du tout que simplement l'ordre. Donc, est-ce que c'était pour éviter la prolifération de noms exotiques, etc., dans les enzymes dans les années 50, hein, la subtilisine ou même l'invertase. L'invertase, il n'y a pas de sucre, il s'appelle l'invertose. Hein, donc, voilà. C'était très utile pour ça. Est-ce que c'est adapté à la bioinformatique? Non, ce n'est pas prévu pour. Hein, donc, par contre, les bases de données et les annotateurs de génome utilisent ces numéros EC et les propagent sans vergogne et sans même savoir ce que ça représente. C'est vraiment dommage. Et ceci basé sur la similitude de séquence, cette similitude qui est fréquemment trop faible pour permettre un passage de la fonction fiable. Donc le résultat, c'est qu'on a eu des bases de données qui sont polluées. Il y a des numéros EC, ont des limitations en particulier. Donc ici, c'est une liste de numéros EC, et donc ils n'ont rien de spécial, c'est 3, 2, 1, quelque chose. Et ici, j'ai traduit un petit peu ce qui se passe dans le centre actif de ces enzymes en mettant des sous-sites. La coupure se fait au niveau de la colonne rouge. Voilà. Et vous avez ici au milieu plein d'enzymes qui agissent sur un bêta-D-glucopyranose au site moins 1 hein, et qui agissent sur des choses dont la partie aglycone est différente. Mais ça, cette ressemblance entre ces substrats n'apparaît pas dans les numéros EC. Ça n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu non plus, c'est que, parce qu'on ne savait pas, c'est que les numéros EC ne décrivent que rarement la stéréochimie de la réaction. Ça décrit le substrat, ça décrit le produit, mais le produit, pour les sucres, pour une hydrolyse, va conduire soit un produit équatorial, soit un produit axial, qui lui-même va pouvoir s'interconvertir ensuite spontanément. Mais ces distinctions ici sont importantes au niveau du mécanisme, au niveau de la catalyse, et ça n'est pas du tout vu par les numéros EC, sauf exception, alpha-amylase et bêta-amylase, 3-2-1-1, 3-2-1-2. Par hasard, je pense que ça a été fait, et il se trouve que les premières agissent avec rétention de configuration, les autres avec inversion. Mais je pense que c'était le hasard plus que la nécessité. Donc, il y a des choses, des recommandations et que je fais à chaque fois. J'en profite, hein, je fais œuvre de prosélytisme ici. Le spectre, enfin, la totalité des fonctions qui sont contenues dans une de nos familles est rarement connue en totalité. Hein, il y a parfois de nos familles un seul membre qui a été caractérisé. On l'avait vu avec le point bleu tout à l'heure. Donc, si vous ne connaissez pas la totalité, eh ben, ça va être difficile d'utiliser ça pour faire des prédictions directes. Il faudrait arrêter aussi de nommer les familles après la première fonction qui est découverte. Hein, c'est, si vous trouvez que la première fonction est une bêta-glucosidase, on a envie de l'appeler famille de bêta-glucosidase, mais on n'est pas sûr. Donc, on n'est pas sûr, il vaut mieux donner un numéro, comme on fait, GH35, c'est moins suggestif. Une des choses qu'on a observées, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser les mêmes règles d'une famille à une autre, en particulier en ce qui concerne les seuils de similitude, de e-value pour les blasts, etc., pour des tas de raisons hein, qu'on pourra discuter si vous voulez rentrer dans les détails techniques plus tard ou tout à l'heure pendant les discussions. Et la recommandation la plus importante, c'est qu'il faut éviter de mettre des prédictions dans des bases de séquences. Vous pouvez mettre vos prédictions dans la discussion de vos papiers hein, en disant, voilà, je pense que, etc. Mais quand on dépose dans une base de données, il faut savoir que ça va être utilisé après par des gens qui n'ont pas forcément la connaissance que vous avez. Hein, donc, voilà. Et en tout cas, dans vos discussions ou dans les discussions des papiers, lorsqu'on discute, on prédit, on a envie de dire qu'il s'agit d'une bêta-glucosidase, sans doute, mais préciser et intégrer de façon explicite la distance, c'est-à-dire la similitude de séquence, hein, le pourcentage d'identité de séquence qu'il y a entre votre enzyme, celle que vous discutez, et celle qui a été caractérisée expérimentalement. Parce que si vous avez 90% d'identité de séquence, ben, vous avez une bonne probabilité pour qu'effectivement vous ayez ça. Si vous avez 30% d'identité de séquence, pour les enzymes qui agissent sur les sucres, ça peut parfaitement agir sur un autre sucre. Hein, voilà. Donc, regardons un petit peu comment les données ont cru au cours du temps. Eh bien, les séquences, ça augmente de façon exponentielle. Et les choses caractérisées, on est toujours sur les glycosides hydrolases, là, parce qu'il fallait bien que je prenne un exemple. Les choses croissent de façon très lente en ce qui concerne la fonction expérimentale et encore plus lente en ce qui concerne les structures à trois dimensions. Donc, j'ai l'habitude de dire que dans cet espace-là, on a beaucoup de place pour faire des découvertes. Hein, voilà.
Caractériser, c'est
expérimentalement.
La structure...
Caractériser, c'est la fonction biochimique, hein, c'est-à-dire le substrat et le produit. Alors, comment est-ce qu'on peut en découvrir la nouvelle ? Parce que c'est tout le but de ce séminaire ici. Ben d'abord, il faut définir ce que l'on entend par nouveau. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle famille, d'une activité qui n'a jamais été caractérisée avant, un nouveau substrat ou un substrat qui est connu mais à des conditions différentes, ou un nouveau produit à partir du même substrat, enfin à peu près ce que vous voulez du moment que vous trouvez que c'est nouveau. Mais ensuite, on a besoin d'une stratégie pour trouver les choses. Hein. Donc on peut prendre la chance, mais bon, ça, on peut pas compter dessus. Hein. En général, même, on peut compter sur l'inverse. Donc on ne va pas développer ça. On peut faire du criblage, ce qui est la méthode traditionnelle. Hein. Vous avez un substrat, vous allez regarder si vous trouvez une fraction qui va vous faire la transformation recherchée. Vous pouvez aller dans les méthodes dites omiques pour aller regarder ce qui va être exprimé quand vous mettez votre organisme en fonction de tel ou tel substrat. Vous pouvez aller regarder du côté des enzymes artificielles, David Baker, ou l'évolution dirigée de Frances Arnold, que vous auriez dû inviter si vous vouliez parler de ça. Moi, je vais vous parler de bioinformatique. Et d'exploration systématique de l'espace des séquences. Alors, la bioinformatique, c'est les coupables par association. Ici, il s'agit d'une vue simplifiée d'un disaccharide qui représente un polysaccharide et qui va être coupé par une enzyme qu'on appelle une LPMO qui va faire une oxydation, coupure par oxydation, soit sur le carbone nanomère, soit sur l'autre carbone engagé dans la liaison glycosidique, parfois avec les deux. Alors le petit trait bleu, c'est une de ces enzymes-là, qui s'appelle A9, peu importe, et l'enzyme suivante ici, c'est la même chose, la même famille, mais qui porte un de ces fameux CBM, dont on a parlé tout à l'heure, hein, Carbohydrate Binding Module. Et donc, voilà, ça, c'est connu. On a, en regardant dans les séquences, on a fouillé, on a trouvé des gènes, des protéines qui avaient la partie A9, mais qui avaient une partie de fonction inconnue sur le C-terminal, qu'on a appelé X278. Ensuite, en continuant de fouiller, on a trouvé qu'il y avait des protéines qui avaient ce X278, mais qui portaient un domaine catalytique. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une chitinase. Et donc, on s'est attelé à savoir à quoi servait cette chose ici. Et cette chose ici, donc, on l'a trouvée chez un champignon Aspergillus oryzae. On l'a caractérisée et il s'agissait d'une LPMO qui agissait sur la chitine. Voilà. Donc, une façon d'un petit peu trouver des nouvelles choses. Une autre façon, c'est de regarder le contexte génomique. C'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec Harry Gilbert à Newcastle, ici. C'est un espèce d'opéron, on appelle ça un locus génomique. Les choses ne sont pas forcément toutes dans sur le même brin ou dans la même direction. Ça, c'est l'état des connaissances avant le travail. Les choses qui sont en rouge, ce sont des protéines ou des gènes de fonction inconnue pour la dégradation d'un polysaccharide qu'on appelle le rhamnogalacturonane de type 2. Et après le travail avec Harry Gilbert à Newcastle, on a découvert la fonction de chacune de ces choses-là qui étaient en rouge et on a découvert cette nouvelle famille de glycosidases d'un coup. Donc c'était quelque chose d'assez colossal. J'ai plaisir à vraiment mentionner Harry pour ce travail-là. Voilà, donc ça, c'est une structure simplifiée du rhamnogalacturonane de type 2 avec toutes les liaisons qui sont coupées par ces sucres. Alors, l'autre façon, celle que j'aime bien aussi, c'est l'exploration systématique de l'espace des séquences. On va faire des analogies ici. On va représenter l'espace des séquences par cette boîte et chaque point là-dedans représente une enzyme qui a été caractérisée expérimentalement, dont on connaît la fonction. Alors, chaque point est une enzyme. Ensuite, par similitude de séquence, si vous êtes 90-95% identique à ça, vous allez quand même pouvoir extrapoler un peu. Donc, en fonction des familles, d'ailleurs, vous allez pouvoir extrapoler un peu plus que parfois ailleurs. Donc, c'est ce que j'appelle l'extrapolation fonctionnelle, ici. Et si vous choisissez vos séquences à caractériser dans les parties blanches, là, petit à petit, vous allez pouvoir explorer cet univers. Et bien sûr, l'univers, il est probablement plus grand que celui que vous pensez. Et sa forme, on ne la connaît pas, la forme de la boîte non plus. Voilà. Donc, ça, c'est... On peut se dire, on va essayer d'explorer cet univers quand même de cette façon-là, en prenant des choses qui sont dans l'espace qui était laissé libre. Dans la pratique, voilà comment on s'y est pris. On a fait un exemple il y a 2 ans, en prenant 539 séquences bactériennes pour la plupart, qui ont été prises soit dans des sous-familles dont on ne connaissait pas la fonction, les familles, il y a des sous-familles, ou alors on a pris des choses qui sont distantes ou super distantes, c'est-à-dire des choses où on n'est pas sûr que ça représente une glycosidase tellement la similitude est faible avec des choses connues, soit on a pris aussi des régions codantes qui codaient pour des protéines avec un peptide signal qui était localisé dans ces fameux LOCI de dégradation de polysaccharides et qui n'avaient pas de similitude avec rien. On a commandé 539 gènes synthétiques qui ont été optimisés pour l'expression dans colis. Et ensuite, l'expression a été faite sous forme de plaques à 96 puits avec purification automatique. On a à peu près 60% des gènes qui ont été ainsi introduits chez colis qui ont été fait des protéines recombinantes dès le premier round d'expression. Ensuite, ces protéines, on les a passées sur une collection de 200 oligo et polysaccharides et avec des essais soit de sucre réducteur, soit de viscosité ou simplement des essais chromatographiques pour regarder si on avait des produits plus petits. Et les résultats sont ici. Alors, c'était sur des plaques à 96 Alors là, on a eu quelques échecs ici, et là, on s'est arrêté là. C'était un projet qui s'appelait 1000 casim, mais l'ANR nous a donné du financement que de 60% de ce qu'on avait demandé. Donc on a fait 60% de ce que l'on pouvait faire. On a trouvé 87 activités découvertes, 316 protéines produites. Donc quelques exemples, vous voyez, on a exploré des sous-familles dans lesquelles on ne connaissait pas les choses, on a trouvé quel était le substrat dans ces sous-familles. On a aussi découvert des choses dans les familles très distantes, etc., avec des tas de choses intéressantes. Un exemple ici, on a trouvé qu'un membre distant de la famille GH49 agissait sur un polysaccharide qu'on ne connaissait pas auparavant, le kétomorphane. On a été capable de cristalliser et de résoudre la structure en quelques jours. Voilà les résultats, donc 13 nouvelles familles découvertes en un coup, avec la fonction établie pour 30 sous-familles qui n'avaient pas été étudiées auparavant. Et on a découvert les premières enzymes qui cassent un certain nombre de polysaccharides, donc des nouvelles propriétés, des nouvelles réactions, des nouveaux numéros EC en perspective. Et amusant, intriguant, c'est qu'on a 231 protéines pour lesquelles on n'a pas trouvé, on a des protéines solubles pour lesquelles on n'a pas trouvé le substrat. Donc, quand je vous dis qu'il y a des réservoirs pour faire de la découverte encore, c'est sûr. On va regarder brièvement les casimes dans les génomes, c'est pour vous détendre avant midi. Donc on va regarder un petit peu chez les champignons, qu'est-ce qu'on trouve, quel est leur spectre. Voilà, ça c'est un exemple ici, pour chaque champignon, on a porté le nombre de gènes codant pour des glycosides hydrolases. Et donc c'est réparti de façon taxonomique avec les basidiomycètes. Ici, les ascomycètes qu'on appelle les levures, les vrais ascomycètes ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nombres extrêmement grands, ou variables en tout cas, de gènes codant pour des hydrolases chez les champignons. Alors, si on prend ces gènes-là, on les classe en famille, et ensuite on fait un double clustering hiérarchique, on va regarder comment se regroupent les profils en casim pour les champignons, et comment se regroupent les familles ici. Tout ce que vous avez à voir, c'est que là, ça a été fait sur 350 génomes. Maintenant, on a passé 2600 génomes. Le défi, c'est de montrer de l'information. C'est comment est-ce qu'on peut passer cette information-là. Et je vais vous montrer. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'en général, si vous regardez un groupe, les groupes, ici, ça, on suit la taxonomie assez bien. Et là, dans ce groupe-là, on a deux amanites. On a l'amanita tiercii et l'amanita muscaria, l'amanite tubouche, ici, voilà. Les deux amanites, ici, c'est les deux seules amanites de cet échantillon. Donc, elles auraient dû se retrouver taxonomiquement l'une à côté de l'autre. Or, ça n'est pas le cas, vous voyez, elles sont placées assez loin l'une de l'autre. Quelles sont les différences? Quelles sont les différences entre les deux amanites? Il y a, à gauche, c'est un champignon qui prend de la matière végétale et qui la décompose. L'autre fait une relation symbiotique avec les racines de plantes, d'arbres. Et les génomes sont virtuellement identiques, sauf pour les enzymes qui dégradent la paroi des plantes. Et c'est à cause de ça qu'elles ont été sur le clustering. Ces choses-là ont été extrêmement séparées. Vous voyez que tiercii, qui décompose la matière végétale, a des enzymes permettant la décomposition de la matière végétale dans toutes ces familles-là, alors que muscaria n'en a pratiquement aucune. Et là où on en voit, c'est sans doute simplement pour faciliter l'approche de la racine plutôt que pour aller dégrader les choses, puisque muscaria va recevoir son glucose de la part du végétal. On peut regarder chez les animaux un petit peu. Ici, c'est un arbre qui représente la diversité métazoaire, avec quelque chose marqué par des flèches rouges qui vont vous montrer, on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau de leur casome. Voilà. Donc, quand on regarde les GH dans les génomes métazoaires, on a certains métazoaires, dont Adineta vaga, ici, un petit rotifère, qui peut avoir plus de 600 gènes codant pour des glycosides hydrolases, alors que la plupart sont plutôt de l'ordre de la centaine, y compris l'homme. L'homme et la femme et autres animaux mammifères. Alors, les 98 enzymes que le génome humain contient, en ce qui concerne les glycosidases, ne sont pas pour la digestion. Ils sont pour des tas d'autres fonctions, la défense, pour le recyclage de certaines choses au niveau cellulaire, etc. Mais pour la digestion de ce qu'on mange, on a ça, hein, ces flèches ici, là. On a une douzaine à peine d'enzymes, dont la lactase, pour le lactose, que l'on perd pour certains d'entre nous avec l'âge, tout ce qu'il faut pour dégrader une partie de l'amidon et le sucre en poudre. Et c'est tout. Hein, tout le reste, eh bien, c'est fait par des bactéries de notre flore intestinale. Un exemple ici, c'est Bacteroides cellulisiticus, impossible à dire, WH2, hein, donc, qui contient 400 gènes pour des glycosidases, juste pour une espèce bactérienne, hein, et qui est capable de prendre en charge la plupart des choses que l'on mange. Donc l'hôte et le microbiote, c'est, ont des choses très différentes en ce qui concerne leur capacité à couper des sucres. C'est un petit peu normal, parce que la diversité en sucre dans la nature, en tout cas celle qu'on mange, est telle qu'un seul génome, notre propre génome, ne suffirait pas à avoir la diversité nécessaire et ne nous donnerait pas l'adaptabilité à notre prochain repas. Il y a un prochain repas qui arrive bientôt. Donc, voilà. Donc, nous, on se focalise sur une petite partie de notre bol alimentaire, alors que tout le reste est pris en charge, ou en tout cas en partie, par notre flore. Et donc, ça me permet de vous parler un petit peu, très très brièvement, sous une diapositive, sur le travail que j'ai engagé avec Jeff Gordon à l'Université Washington à Saint-Louis, sur les casimes, et pour étudier un peu... c'est la fin ? Non ? Pour étudier un petit peu ce qui se passe au niveau de la... c'est la fin. voilà, donc globalement, depuis 15 ans, on a d'abord commencé par regarder la diversité globale des casimes entre des individus obèses et des individus non obèses. On a ensuite essayé de regarder s'il était, on était capable de donner des polysaccharides qui seraient capables de faire une manipulation, de favoriser certains microbes de la flore intestinale sur des flores simplifiées à 15 membres. Ensuite, on a essayé de voir si on était capable d'identifier des bactéries au niveau du genre, hein, des bactéries qui pourraient empêcher les enfants mal nourris, malnutris, de développer des symptômes irréversibles. Hein, la faim, la malnutrition sévère, ce sont des symptômes irréversibles qui vont ensuite rester pendant toute la vie de l'individu, non seulement en taille, mais aussi en développement cérébral, etc. Donc c'est extrêmement lourd. Et ensuite, on a regardé s'on était capable de trouver des nourritures qui permettraient en les passant chez des animaux germ-free, hein, qui ont été ensemencés par... du microbiote d'enfants mal nourris. Ça permet de travailler sans avoir de problème éthique. Et donc, avec Jeff, trouver des nourritures qui permettraient de favoriser certaines bactéries. Et donc ça a été fait. À chaque fois, évidemment, la nourriture, elle comprend des sucres. Hein, c'est toute l'idée. Et récemment, et ça c'est un truc qui est juste soumis, on a trouvé des bactéries qu'on a pu identifier à l'échelle de la souche, hein, plus, on n'est plus au niveau du genre, mais au niveau de la souche, qui permet de remettre des données biochimiques de façon de réparer des données biochimiques chez les enfants mal nourris. Et on a identifié également quels sont les glycanes, quels sont les polysaccharides qui sont impliqués là-dedans. Et un nouveau travail qu'on est en train de faire et qui n'est même pas encore soumis, à partir de là, on avait trouvé quelle était la souche. Et dans cette souche, on est en train de faire le zéro, comme on dit, on est en train de focaliser sur quel est le ou quels sont les gènes qui interviennent. Et j'ai évidemment de gènes de Casim, hein, qui vont donner les propriétés du dessus à ces souches bactériennes. Donc il y a des applications inattendues pour un système de classification des enzymes, pour en découvrir, hein, c'est-à-dire chercher en dehors de ce qui est connu, mais aussi pour ensuite explorer cet ensemble de choses qui relient la séquence des gènes à leur fonction. Donc quelques conclusions très courtes. En raison de leur stéréochimie, et tout commence dans la stéréochimie des sucres, les sucres ont été une force de l'évolution de la diversité, de la biodiversité sur Terre. Et la fonction biologique des sucres n'est limitée finalement que par la spécificité des enzymes qui les synthétisent ou qui les traitent. Les casimes, j'espère vous en avoir convaincu, portent plus d'informations à lire depuis un génome que n'importe quelle autre classe d'enzymes. Prenez les peptidases, elles sont classées aussi en famille, sous-famille, clan, etc. Vous avez un nouveau génome qui débarque, vous allez assigner des gènes à des familles de protéases, qu'allez-vous pouvoir en déduire ? Eh bien, vous avez des protéases. Vous n'avez pas de relation directe avec un substrat particulier. Alors qu'avec les enzymes qui agissent sur les sucres, vous l'avez, cette chose-là. Vous tombez sur la famille GH10, eh bien, vous avez quand même de bonnes idées. Vous savez que c'est un sucre lié équatorial, que la plupart des membres sont des xylanases. Donc, il est raisonnable, en tout cas, de formuler l'hypothèse qu'on peut avoir une oxylanase. Oxylanase, c'est différent de amylase, c'est différent de plein de choses. Donc, vous voyez le pouvoir que vous avez, et c'est la même chose pour les kinases. Vous connaissez, il y a une connaissance qui est incroyable sur les kinases animales et humaines en particulier, mais lorsque vous allez passer chez des organismes plus lointains, vous ne saurez pas quel est le substrat de votre kinase. Ici, on s'en rapproche fortement. Et je pense qu'en continuant à explorer l'univers des fonctions, de façon rationnelle comme ça, on va pouvoir arriver à une prédiction fonctionnelle dès lors qu'on aura un petit peu échantillonné cet univers de façon suffisante. Mais pour échantillonner cet univers, on a toujours besoin, pour l'instant, et encore pour un bon petit moment, de biochimie expérimentale, d'enzymologie. C'est la clé du progrès. Un jour, on peut espérer éviter le laboratoire, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc 188 ans après la découverte de l'amylase, mais il y a encore plein d'enzymes à découvrir. Voilà. Merci.